Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc pour commencer ce moment ensemble, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux bûcherons. L'un donne des coups de hache, transpire, peste contre ce travail tuant qui n'avance guère. L'autre abat les arbres les uns après les autres, tranquillement, sans se plaindre et sans sembler faire de gros efforts. « Je ne comprends pas, » dit le premier. « J'ai tellement de mal à abattre ces arbres. Toi, tout te semble facile. Comment fais-tu » Le second répond « Écoute, juste un conseil. Si tu affûtais de temps en temps ta hache. » Et vous, affûtez-vous de temps en temps votre hache? En d'autres termes, apprenez-vous des choses nouvelles pour affûter votre esprit. J'ai eu ce petit texte, c'était pas du tout dans un contexte biblique ou d'église, c'est simplement quelque chose qui a été communiqué pour parler dans un domaine de travail ou de motivation. Mais finalement, ça ressemble tellement à Ecclésiaste 10:10. Il nous est dit de quelqu'un, s'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. Et il nous est dit, la sagesse a l'avantage de donner le succès. Donc on peut des fois redoubler de force et d'efforts, mais ça produit peu de résultats. Alors que si on est au contact de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire que si on affûte notre esprit, si on commence à voir des choses de la façon dont Dieu les voit, il y a des choses qui peuvent se transformer. Donc notre titre et la réflexion qu'on va avoir ensemble, c'est comment affûter votre esprit. On a besoin d'avoir un esprit affûté. Comme il nous est dit aussi dans le livre des Hébreux, il est dit comme un reproche, il a dit de certaines personnes, ça fait longtemps que vous êtes chrétiens, et vous en êtes encore au béaba, à l'ABC de la foi, vous êtes encore comme des enfants. C'est dans Hébreux 5, verset 11. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il explique, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Le lait étant la nourriture de base pour les nouveau-nés. Les nouveau-nés et puis les petits-enfants. Et donc il nous est dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Donc un jugement exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça, c'est quelque chose qui est un affûtement dans l'esprit. On arrive à rapidement distinguer. Moi, je me rends compte aussi qu'il y a des domaines que je connais bien et d'autres domaines où, par exemple, quelqu'un sera plus spécialiste que moi. Donc, quand on parle d'un sujet que je ne connais pas très bien, qu'est-ce que j'ai besoin ? Ben souvent, je dois réfléchir, je dois prendre du temps pour comprendre de quoi il s'agit, de ce que la personne veut dire. Alors que l'autre peut être très rapide et aller droit au but. Donc, nous, on peut des fois avoir l'impression d'être un peu lent. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais souvent, c'est un peu ça. Quand on ne connaît pas bien un sujet. Mais là, il nous est dit justement que dans le domaine de l'esprit, nous devrions devenir plus en plus vifs. Rapidement savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ici ou que je dise là. Donc c'est quelque chose qui s'entraîne. On ne continue pas à travailler toujours de la même façon en disant bon ben voilà, il faut que j'abatte des arbres, je tape de plus en plus fort, mais ça n'avance pas. Mais au contraire de voir, tiens, qu'est-ce que je peux recevoir de la sagesse de Dieu pour pouvoir progresser. Comprenons que nous sommes vraiment dans un monde spirituel. C'est essentiel de comprendre que le spirituel est d'abord. Au commencement était Dieu. Dieu n'a pas été créé par la suite dans notre imagination, mais il était au début. Mais il se trouve que nous, maintenant dans notre situation, nous naissons d'abord dans le naturel. et le spirituel vient après quand on s'éveille à la vie de Dieu. Et c'est pour ça que nous, on a des fois une vision inverse de la réalité du monde dans lequel on vit. On est dans le naturel, on commence à découvrir les choses de Dieu, et puis on grandit dans le spirituel. Mais on peut dire que, d'une certaine façon, pour Adam et Ève, nos lointains ancêtres, c'était l'inverse. Ils ont été créés par Dieu, et ils ont tout de suite été créés à l'image de Dieu, et avec un esprit qui était en communion avec Dieu. Vous voyez, donc c'était vraiment, on peut dire, l'inverse de nous. Il y a plusieurs explications de Genèse au début qui nous expliquent quel type d'être humain nous sommes. Il nous est dit que Dieu nous a physiquement tirés de la terre dans laquelle nous sommes, il nous a formé un corps, et puis il a soufflé en nous un souffle de vie. Cet esprit, il nous est dit que pour certains, on le décrivait comme une âme vivante. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans le texte hébreu, pour certains, on a dit que c'est un esprit qui parle. L'être humain est devenu un esprit qui parle, c'est-à-dire qui peut se manifester dans le domaine dans lequel nous sommes. Nous disons, nous proclamons des mots, et cela a un impact sur notre environnement, sur ce que nous pensons, sur ce que nous croyons, sur ce que nous voulons faire, sur ce que nous désirons qu'il se fasse. Donc cet esprit qui parle, il est à l'image du Créateur, c'est-à-dire que nous agissons comme Dieu nous a permis de faire. Mais nous devons rester attachés à cette image spirituelle de l'être humain. Ça doit être vraiment notre quête constante d'être d'abord spirituellement affûté, vif, réveillé, tout de suite savoir des choses qui se passent, discerner rapidement, pas après des heures et des heures de réflexion, j'en arrive à... Des fois, on est lent, on est tous comme ça, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. C'est pour ça qu'on est ensemble pour se dire, il y a des choses que je dois arriver à discerner rapidement. Un exemple très précis. Vous pouvez être, même hélas, des fois dans la famille ou dans votre environnement professionnel, dans un conflit. Et vous demandez ce qui se passe. Mais pourquoi il m'a dit ceci ou il m'a dit cela? Et pourquoi il y a une animosité? Pourquoi il y a une tension, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous soyez de nouveau en contact avec la parole de Dieu qui vous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, quelqu'un, au lieu d'avoir l'influence de Dieu dans sa vie, Dieu est amour, et l'amour, elle est joie, paix, bonté, douceur, etc. Il a fermé cette influence de Dieu et s'est laissé, par négligence, frustration, péché et autres, une influence de mécontentement, frustration, rancœur, haine, je ne sais quoi. Et vous vous demandez, mais pourquoi je suis dans cette situation de tension maintenant? Ah, mais oui, la parole de Dieu nous révèle. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La personne que je vois en face de moi n'est pas réellement mon ennemi. L'ennemi, il est caché derrière, il est en train de pousser de vouloir justement que la situation devienne compliquée. Et on essaie de trouver des solutions. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut être aimable, on veut montrer de l'amour pour que la tension diminue. Mais la tension ne diminue pas toujours comme ça. C'est vrai que l'amour est une bonne réponse, hein, plutôt que la réaction de « on m'a agressé, je réplique tout de suite ». Mais par contre, il y a un moment donné où il faut savoir ce qui se passe. Et il faut savoir faire notre combat spirituel. C'est pourquoi il paraît un peu brutal de la part de Jésus d'avoir dit à Pierre « arrière de moi, Satan ». C'est un peu « hey, qu'est-ce qui se passe là? Je suis Pierre, je suis avec toi depuis des années, tu me traites comme ça ». Mais à un moment donné, il y a un discernement spirituel, c'est-à-dire « tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Les pensées que tu es en train d'exprimer sont un mélange de tes sentiments et de la volonté de l'ennemi de me détourner de la volonté de Dieu dans ma vie. » Jésus était sur le point d'offrir sa vie en sacrifice et quelqu'un, le diable, vient par quelqu'un qui lui est proche pour lui suggérer une autre voie. « Non, non, ça ne t'arrivera pas, tu ne dois pas faire ceci. » Donc, c'est des fois difficile, mais il faut qu'on discerne qu'est-ce qui se passe. Donc, recherchons la sagesse de Dieu, soyons en communion avec son esprit. C'est pourquoi Jean 4 nous dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. L'adoration, ce n'est pas un moment dans l'Église où on a des chants doux et on dit « Je t'adore ». L'adoration, c'est un moment où dans notre esprit, on est en présence de Dieu. Dans les évangiles, certaines personnes, des fois, il nous est dit « Tomba à genoux devant Jésus, l'adora ». L'adoration, ça n'a presque pas de mots. C'est quelque chose qui est quasi inexprimable. C'est comme « On est émerveillé. On réalise mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas énormément de mots, c'est surtout au niveau de l'être intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça que Dieu demande. Une version qui peut être traduite du grec dit « ce que Dieu exige ». Pourquoi il exige ? Parce qu'il dit « c'est la seule chose que je recherche vraiment avec vous ». L'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Ça montre qu'il y a un contact, une communion qui ne dépend pas de nos sentiments, comment je me sens, est-ce que je suis en forme, quelles sont mes doctrines, quelles sont mes pensées, quelle est la vie que je viens de mener, parce que des fois on se sent misérable quand on a raté un truc, on ne sent pas tellement en communion, et de toutes ces choses n'ont rien à voir avec le fait que à un moment donné, il y a cette connexion. Si vous me permettez de vous donner une vision, c'est comme ce dessin religieux dans la chapelle Sixtine à Rome, où on voit le doigt de Dieu et le doigt humain qui se touchent, hein, avec toutes les réserves que je mets sur les représentations religieuses, mais ce contact qui est établi. Mais ce contact n'est pas physique, il n'est pas au niveau d'un doigt, il est au niveau de l'être spirituel que nous sommes. Il y a une relation établie. Et donc, dans ce sens, Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Parce qu'il sait que c'est là le niveau dans lequel il veut nous entraîner. C'est là que ça se passe. Les autres choses sont en deuxième, troisième position. Et on le voit que quand des gens parlent de l'homme en trois dimensions, souvent on dit corps, âme et esprit. Voilà. C'est ce qui vient le plus souvent. Alors que la Bible dit esprit, âme et corps. Avec ça, vous avez tout compris. Vous avez tout de suite réalisé que tout est fait dans le monde dans lequel nous évoluons, avec la publicité, tout est fait pour satisfaire le corps d'abord, et l'âme dans tous les désirs et les aspirations qu'on peut avoir. Il y a très peu de place au niveau de l'esprit. Et ceux qui ont un désir au niveau de l'esprit, à ce moment-là, l'occultisme vient se manifester pour satisfaire à la soif du surnaturel et du mystérieux. Et c'est pour ça qu'on sait que le diable est le prince de la planète Terre et que nous sommes là pour justement apporter la seigneurie de Jésus-Christ par notre engagement, par notre présence et être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc au début, à commencement, il nous est dit, à la Genèse, on va pas voir les passages, mais vous vous en rappelez, Genèse 1, au début, était Dieu. Au commencement était Dieu et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Et Dieu dit, à un moment donné, il dit et quelque chose se produit. Et dans Jean, l'évangile de Jean, de nouveau on reprend la même idée. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quelque chose s'est produit. Alors quand nous sommes avec nos problèmes de toutes sortes, pourquoi ne pas appliquer aussi ce principe ? Au commencement était la parole. Nous, c'est souvent le problème, il est là. La difficulté, la tension, elle est là. Et on cherche des solutions. Et finalement, on se tourne vers Dieu. Et quelqu'un a dit, c'est comme désespéré, tu vois, comme dans un mauvais film, fais ta prière quand il menace l'autre, il va juste avant de l'assassiner, fais ta prière. Donc c'est la dernière chose à faire avant de mourir. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons concevoir la prière, comme un truc in extremis. Et donc en général, ce n'est pas pour être délivré, c'est juste pour remettre son âme à Dieu avant de mourir. Donc ça, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est au commencement était la parole. Donc, dès qu'on a conscience de quelque chose qui se passe, d'y mettre la parole de Dieu. Après, on va encore plus loin. On anticipe. Avant que le problème apparaisse, 1 Corinthiens 10, 13, nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue. » Vous savez, je dis souvent, tentation et épreuve sont interchangeables. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. » Et Dieu, il prépare le moyen de sortir de cette tentation. Il prépare le moyen. Ça veut dire qu'on peut anticiper. Au moment où l'épreuve arrive, je suis déjà armé. J'ai déjà mes versets bibliques, si vous voulez. Hein. C'est pas seulement un verset biblique, une recette toute faite que j'applique. Non, c'est plus que ça. C'est la parole de Dieu en moi. Et quand on est un peu comme une éponge, on absorbe des choses, mais quand la pression est là, ce qui est en nous ressort. Comme l'éponge. Vous appuyez dessus, et ce qui était dedans ressort. Si c'est la parole de Dieu qui est dedans, alors c'est la parole de Dieu qui ressort et c'est la parole de Dieu qui agit. Si vous êtes rempli d'inquiétudes, de soucis, de toutes sortes de problèmes, quand la pression est là, c'est ce qui ressort. Et là, on entend de la bouche des gens exactement où ils en sont. J'ai peur que ceci et cela m'arrive. Parce qu'ils sont remplis de crainte et au moment où il y a une épreuve, ça appuie sur l'éponge et la peur, elle sort. Mais vous savez, on n'est pas appelé à vivre selon la crainte. Parce qu'au contraire, ça nous a été rappelé encore et partagé ici, il n'y a pas longtemps, dans Luc, au chapitre 1, verset 74, il nous est dit que Dieu voulait nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Il ne doit y avoir aucune crainte. La crainte ne vient pas de Dieu, elle n'aide pas l'œuvre de Dieu, et c'est l'ennemi de la foi. Donc il faut vraiment déceler dans notre vie toute crainte. Qu'est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait agir dans certaines circonstances? Peur de perdre quelque chose? Pour ça, les Japonais qui ont un certain code aussi d'honneur et de mentalité, ils disent « Le vainqueur, c'est celui qui n'a plus rien à perdre. » Tant que vous voulez vous accrocher à quelque chose, alors vous êtes dans une situation où vous risquez de perdre. Et c'est rien d'autre que, dans les évangiles aussi, on dit « Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. » Mais celui qui est prêt à la donner à Dieu, à y renoncer, il va la gagner. Donc c'est des principes où on voit que dans beaucoup de cultures aussi, on peut puiser des morceaux de la sagesse de Dieu. Mais nous, on a la sagesse de Dieu dans la parole de Dieu, et c'est une bonne chose. Donc la parole était au commencement, et Dieu dit, et il dit, et il dit, et c'est tellement important. Donc qu'est-ce que tu veux changer ? On a vu qu'on est dans un monde spirituel, il y a des choses où tu veux agir, où tu veux changer. Donc j'ai recherché aussi sur internet quelque chose et je suis tombé sur un site qui dit « Libère ton esprit ». J'ai juste lu la première phrase « Libère ton esprit », c'était écrit. Et il y avait une citation de Albert Einstein. « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. » Voilà ce qu'il a dit. Et donc je me dis, beaucoup de personnes pensent qu'il y a des choses qui vont se passer par chance ou par accident. Quand quelque chose de bon se passe, ah, t'as eu de la chance. Ou alors, pour d'autres choses, on dit, ben voilà, c'est arrivé, mais on ne sait pas pourquoi c'est arrivé à un tel, ça aurait pu arriver à un tel autre. Mais dernièrement, vous avez peut-être entendu, il y a un de nos concitoyens en France, il a fait un record de vélo. Donc, c'était vendredi, donc un monsieur Robert Marchand, voilà ce qu'il a fait. Il a 102 ans, et on peut toujours progresser, qu'importe les années. À 102 ans, Robert Marchand a battu ce vendredi le record du monde de l'heure de cyclisme sur piste, dans sa catégorie d'âge. Sur la piste du nouveau vélodrome national à Saint-Quentin en Yvelines, le centenaire a parcouru 26,9 km en une heure. Il a pulvérisé le précédent record qu'il détenait déjà, 24,25, dans sa catégorie master plus de 100 ans, qui a été homologué par l'Union cycliste internationale et créé spécialement pour lui. À titre de comparaison, le détenteur du record du monde de la distance parcourue en une heure, toute catégorie, bon, c'est quelqu'un qui a fait 49,7 km en 2005. Le coureur de Seine-et-Marne, natif d'Amiens en Picardie, avait pour ambition de dépasser les 25 km. Robert Marchand, qui a confié n'être qu'à 90% de ses moyens, a donc fait mieux que remplir le contrat. Pour y parvenir, le cycliste a atteint 130 pulsations minute. Les médecins m'avaient conseillé de ne pas dépasser 115, a-t-il d'ailleurs révélé. Mais ce dernier souhaitait remercier à sa façon les dizaines de personnes venues assister à son record. Malgré le coup de projecteur, Robert Marchand reste modeste. « Je ne suis pas particulièrement fier. Tout le monde peut réaliser ce que je viens de faire. » Et c'est ça qui m'a choqué là. Tout le monde peut réaliser ce que je viens de faire. En réalité, ça démontre quelque chose. C'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils voient juste l'événement qui s'est produit, le record. Mais en réalité, nous savons tous que derrière la plupart des records, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas par accident qu'il a réussi, mais c'est à force de discipline pendant toute sa vie. Et c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde ne peut pas réaliser, même si potentiellement beaucoup pourraient peut-être faire ce genre de choses, mais il faudrait vouloir le faire. Et il faudrait s'astreindre à la discipline qui est nécessaire. Donc il dit, tout le monde peut réaliser ce que je viens de faire. D'ailleurs, je suis un peu fatigué. Je ne le ferai pas tous les jours. Je ne sais même pas si je retenterai un jour de battre le record. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai toujours du vélo, au point peut-être de devenir le cycliste le plus âgé du monde. Donc, à 102 ans, on peut encore avoir des objectifs et des choses qu'on voudrait atteindre. Et donc, il a été très suivi et beaucoup de gens étaient intéressés d'étudier ce phénomène qu'il est. Et ils ont dit, il a l'état physique d'un homme de 50 ans, actuellement. Mais la clé de tout cela, c'est l'entraînement, c'est la discipline. Et là encore, tout ce que nous voyons dans le monde et que nous pouvons utiliser pour notre bien, nous voyons toujours quelque chose de la parole de Dieu qui l'appuie, qui le souligne et qui le dépasse la plupart du temps. Et donc là, ça me fait naturellement penser, une fois de plus, à 1 Corinthiens 9, selon la parole vivante où l'apôtre Paul disait que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Dit les grands athlètes de son temps étaient prêts à tout pour gagner des couronnes dans le stade. Mais nous avons tous une couronne qui ne flétrira jamais. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Verset 27. « J'entraîne mon corps par l'endurcissement, par la discipline, afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise, je le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Et ce qui est valable et une illustration pour le corps et que nous comprenons bien, j'aimerais qu'on l'applique aussi à l'esprit. Entraînons-nous dans l'esprit à aussi devenir des champions spirituels pour Dieu. Souvent, on voudrait des résultats, mais sans l'effort. Alors on admire, on jalouse même les autres, mais nous savons quoi faire. Comme quelqu'un l'a dit, qu'est-ce qui vous empêche d'être aussi spirituel que vous le voulez ? Et donc, qu'est-ce que c'est la vraie spiritualité? C'est obéir à la parole de Dieu qui nous montre qu'il y a un domaine spirituel qui est au-dessus du domaine naturel, mais qui a des implications directes. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que nous voulons affûter notre esprit en comprenant que nous sommes dans un monde spirituel, que nous pouvons y agir, que nous voulons changer certaines choses, obtenir des résultats, atteindre des objectifs. Je vous ai donné cette illustration par notre cycliste national. Et le troisième point, et qui était la suite de la citation d'Einstein, c'est de changer notre monde. Changeons notre monde. D'abord, mon monde à moi, dans lequel je vis, celui que je suis. Je suis déjà un monde à moi tout seul, un monde de choses. Dans le psaume 139, il dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Ce n'était pas pour flatter notre ego et notre problème d'estime de soi, de dire « Ah oui, je me sens un peu moyen, voire misérable, mais la Bible dit « Je suis merveilleux, donc je suis merveilleux. » Ce n'est pas ça. Dans le texte, à l'origine, c'était… Il reconnaissait la création de Dieu. N'arrêtez jamais d'apprendre des choses de la part de Dieu. Pas vous remplir la tête de connaissances, mais moi je suis toujours à l'affût des choses qui nous parlent, qui nous élèvent. Je viens d'apprendre hier que nous avons 200 millions de neurones qui agissent au niveau de notre ventre. Intéressant, hein. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, mais simplement de dire que Dieu a fait de nous une créature vraiment extraordinaire, de réaliser tous ces détails. Donc, on parlait de la taille d'un cerveau de fourmi, mais là, on est dans la création de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il me disait Einstein? Il disait, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et ensuite, il a dit, et la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. De commencer à dire, voilà ce que j'aimerais. Voilà ce que j'aimerais faire. Et puis de concevoir comment je vais réaliser cette chose. Vous pouvez le prendre à n'importe quel domaine. Ça peut être, vous voulez créer un jardin japonais, vous voulez faire une réalisation technique ou une recette de cuisine ou, et commencer à dire, voilà ce que je vais faire, voilà les ingrédients que je vais utiliser, voilà le temps que je vais m'y consacrer, voilà les éléments qu'il me faudra. Et puis après, vous commencez à dire, je vais le faire, je vous invite et je vous fais ce plat ou je vais faire ceci. Donc vous commencez à le dire, vous le concevez dans votre tête, vous voyez les images du produit fini. Une création de robe ou n'importe quoi d'autre. Mais vous commencez à le faire et vous le dites et vous le vivez et vous y réfléchissez. Et donc, l'avenir n'est plus quelque chose que je subis tout à coup. Ou je suis spectateur, ou je suis quelqu'un qui est obligé de faire. Comme la plupart des gens disent, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors que la Bible dit... J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu nous donne des choix de vie. Quand on dit qu'on n'a pas le choix, c'est que sur le moment, nous ne voyons pas la solution. On ne voit pas d'issue. Donc on pense, j'ai pas le choix, je dois faire ça. J'ai aucune autre possibilité. Mais où est-ce que c'est différent? C'est dans notre esprit que c'est différent. Donc je vais vous faire une citation de Star Wars maintenant. Parce que, donc, Luc et Yoda ont une discussion, et donc il arrive par, c'est dans la science-fiction, hein, il arrive à faire bouger des pierres. Et à un moment, il doit donc faire sortir le vaisseau spatial qui est engouffré dans les marais. Et donc il dit à son maître, « Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, soulever un vaisseau spatial, c'est totalement différent. » C'est à quoi Yoda répond, non pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Luc répond, je vais essayer. Yoda lui réplique, non, n'essaye pas. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Luc répond, j'arrive pas à y croire. Yoda dit, c'est pour cela que tu échoues. Et nous savons que celui qui a fait la saga de la guerre des étoiles, il a pris dans l'ensemble des croyances de l'humanité, il a puisé à droite, à gauche, il a un peu fait du méli-mélo, hein. Donc ce n'est pas l'évangile. Mais dans ce que nous avons lu, c'est exactement ce qui se passe dans le domaine, dans l'esprit. Nous pensons qu'une chose est possible et qu'une autre n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, on a fait cette hiérarchie. On a dit à Dieu ce que tu peux faire. On imagine... que si j'ai un rhume et que je prie, je vais guérir au bout de 8 jours. Et en fait, on ne croit pas au miracle de Dieu. On pense simplement ce qui est raisonnable de croire, je vais améliorer, et après on dit c'est Dieu qui m'a guéri. Mais vous voyez, mais par contre, s'il y a un cancer incurable, on dit, ah là, je ne crois pas que... Vous avez compris ce que je veux dire pour illustrer? C'est juste parce que dans notre tête, nous avons imaginé un certain nombre de choses. C'est différent dans notre esprit, mais ce n'est pas différent pour Dieu. Parce que lui, qu'il fasse un petit miracle ou un grand miracle, pour lui, c'est toujours une intervention surnaturelle. Et pour lui, il n'y a pas une petite chose, une grande chose. Une chose qui lui est difficile et une chose qui lui est impossible. Ça n'existe pas. Donc, c'est souvent différent dans notre esprit. On doit désapprendre ce qu'on a appris. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. On doit apprendre une nouvelle façon de voir les choses. On dit qu'on va essayer, mais si on dit « je vais essayer », mais que c'est l'enseigne du doute, parce qu'on se dit « je suis pas sûr si ça va marcher, mais je vais essayer », alors on n'est pas dans la foi. C'est pour ça qu'on échoue. « J'arrive pas à y croire, c'est pour cela que tu échoues. » Donc voilà, ah, il avait raison, hein, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour nous, on maintenant ferme la parenthèse, on revient dans la réalité de la parole de Dieu et pas dans les histoires. Dans Marc 9, à un moment donné, au verset 23, Jésus dit à cet homme, « si tu peux croire, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. » Donc, je vous souhaite de vous rappeler de beaucoup de choses de ce matin, beaucoup de choses, parce que votre esprit peut enregistrer tout cela. Vous pourrez puiser dans le plus profond de vous-même toutes ces paroles qui sont esprit et vie, mais surtout, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et même si vous sentez, j'arrive pas encore à y croire, je n'arrive pas à le saisir, Jésus ne vous condamne pas. Il dit au contraire, quand le Père lui dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité, Jésus agit selon sa foi. Il vient le rencontrer au point où il est. Et si on tourne la page de Marc 11, donc on était dans Marc 9, on revient dans Marc, on va plus loin dans Marc 11, 22. Nous avons encore besoin de nous entretenir de 22, 23, 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » On a besoin d'entendre tout le temps ces paroles, tout le temps, tout le temps. Je crois, je déclare, quand je prie, je crois que Dieu va agir, etc. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui échouent, comme le disait le pasteur John Austin, nous ne sommes pas de ceux qui échouent, nous sommes de ceux qui sommes en train d'apprendre. Donc, on peut avoir un échec de temps en temps, mais on apprend, on progresse. J'aimerais conclure en disant, de la même façon qu'on a vu l'histoire de la hache et qu'il faut affûter, c'est autre chose qu'on peut affûter. Et là, j'avais lu cette phrase, la prière ne retarde pas le travail. Pas plus que affûter la faux ne retarde le fauchage. Donc, invoquez-le. Jérémie 33, 2, voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. Il met en œuvre des événements, des choses qui vont se passer, ça veut dire il les met en route. Il y a des choses que vous avez priées déjà et des choses qui sont en route. Et d'autres que vous allez déclencher aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous les déclenchez ce matin, cet après-midi, vous aurez le résultat. Il y a des choses qui se réalisent, des fois instantanément, des fois bientôt, des fois ça se met en route parce que d'autres personnes sont aussi concernées. Mais voilà ce que dit l'Éternel, quand il est dit dans la Bible, ce que dit l'Éternel, soyez spécialement attentifs. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Des événements que Dieu donne forme. Parlez tout à l'heure d'un bloc de granit brut qui est taillé, ou vous pouvez le voir pour d'autres choses, de prendre une masse d'argile pour faire une poterie. Au début, on ne voit pas à quoi ça peut ressembler. Les éléments sont là, la matière est là, mais ça ressemble encore à rien. De la même façon que la terre était là, informe et vide, l'Esprit de Dieu planait et Dieu dit et quelque chose en sortit. De la même façon, de votre vie, de ma vie, de choses que nous attendons, il y a des événements qui se mettent en œuvre. Il n'y a pas rien, pas de projet, pas d'avenir, pas de vision. Non, ça n'existe pas. Au contraire, il y a des événements. L'Éternel leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel, c'est comme pour souligner, attendez, c'est pas n'importe qui parle là, c'est Dieu. Celui dont le nom est l'Éternel. Et il dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Pour ça que j'aime bien lire des fois dans cette version 21, ça nous change un peu de celle qu'on a l'habitude. Dans, là où on a l'habitude, je vous le lis encore une fois pour que ça vous rapproche du texte que vous connaissez. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Une conception, on sait ce que c'est. C'est quand il y a la vie dans le corps d'une maman et cette vie est en train de se développer. Et donc, c'est pas pour autant qu'il y a la naissance tout de suite. Lui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et donc, dans mon texte, j'aime le relire, c'est « Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne la forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Et Romains 10, 13 dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Sauvée dans tout ce que vous aurez besoin. Amen. Je vous encourage, pour terminer ce moment, simplement faire encore, c'est une bonne déclaration, selon Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.